Chapitre 3. L'hommage de Phébus. Vous regardez s'éloigner Troie. Belle cité, n'est-ce pas, mon neveu? Surtout par ce matin tout éclairé de soleil. Ah, c'est une grande chance pour une ville que d'avoir donné naissance à un pape. Car les beaux hôtels et palais que vous avez vus autour de la maison de ville et l'église Saint-Urbain, qui dans l'art nouveau est un joyau avec sa foison de vitraux, et bien d'autres bâtiments encore dont vous avez admiré l'ordonnance, tout cela est dû au fait qu'Urbain IV, qui occupa le trône de Saint-Pierre voici tout près d'un siècle, et pour 3 ans seulement, avait vu le jour à Troyes, dans une boutique, la même où s'élève à présent son église. C'est ce qui a donné de la gloire à la ville, et comme un élan de prospérité. Ah, si pareille fortune avait pu échoir à notre cher Périgueux. Enfin, je ne veux plus parler de cela, car vous croiriez que je n'ai rien d'autre en tête. À présent, je connais le chemin du Dauphin. Il nous suit. Il sera demain à Troyes. Mais il gagnera Metz par Saint-Dizier et Saint-Mihiel, tandis que nous passerons par Chalon et Verdun. D'abord parce que j'ai affaire à Verdun, je suis chanoine de la cathédrale, et puis parce que je ne veux point paraître me joindre avec le Dauphin. Mais rapprochés comme nous sommes, nous pourrons à tout moment échanger messagers dans la journée ou presque, et puis nos liaisons deviennent plus aisées et rapides avec Avignon. Quoi donc? Qu'avais-je promis de vous conter que j'ai oublié? Ah! Ce que fit le roi Jean à Paris pendant les 4 jours qu'il s'absenta du siège de Breteuil. Il fallait recevoir l'hommage de Gaston Phébus. Un succès, un triomphe pour le roi Jean, ou plutôt pour le chancelier Pierre de la Forêt qui avait patiemment, habilement préparé la chose. Car Phébus est beau-frère du roi de Navarre et leur domaine tout voisin au seuil des Pyrénées. Or, cet hommage traînait depuis le début du règne. L'obtenir au moment où Charles de Navarre était en prison, voilà qui pouvait changer les choses et modifier le jugement de plusieurs cours d'Europe. Bien sûr, la réputation de Phébus est venue jusqu'à vous. Oh, pas seulement un grand veneur, mais aussi un grand jouteur, un grand liseur, un grand bâtisseur et de surcroît, un grand séducteur. Je dirais un grand prince dont la peine est de n'avoir qu'un petit état. On assure qu'il est le plus bel homme de ce temps, et j'y souscris volontiers. Très haut et d'une force à se battre avec les ours. Au propre, mon neveu, avec un ours, il l'a fait. Il a la jambe bien fendue, la hanche mince, l'épaule large, le visage lumineux, la dent très blanche sous le sourire. Et puis surtout, il a cette masse de cheveux d'un or cuivré, cette toison radieuse, ondulée, arrondie jusqu'au bas du col, cette couronne naturelle, flamboyante, qui lui a fait prendre le soleil pour emblème, ainsi que son surnom de Phébus, qu'il écrit d'ailleurs avec une F et un E, Phébus, parce qu'il a dû le choisir avant d'avoir un peu de grec. Il ne porte jamais de chaperon et va toujours nu-tête, comme les anciens Romains, ce qui est unique dans nos usages. Je fus chez lui, naguère, car il a fait si bien que tout ce qui compte dans le monde chrétien passe par sa petite cour d'Orthèse, dont il est arrivé à ce qu'elle soit une grande cour. Quand je m'y trouvais, j'y rencontrais un comte palatin, un prélat du roi Édouard, un premier chambellan du roi de Castille, sans compter des physiciens réputés, un célèbre imagier et de grands docteurs eslois, tout ce monde splendidement traité. Je ne sais que le roi Lusignan de Chypre, qui est si rayonnante et si influente cour sur un si étroit territoire. Mais il dispose de beaucoup plus de moyens, de par les profits du commerce. Phébus a une rapide et plaisante façon de vous montrer ce qui lui appartient. Voici mes chiens de meute, mes chevaux, voici ma maîtresse, voici mes bâtards. Madame de Foix se porte bien, Dieu soit loué, vous la verrez ce soir. Le soir, dans la longue galerie qu'il a fait ouvrir au flanc de son château, et d'où l'on domine un horizon montueux, toute la cour se réunit et déambule pendant un grand moment, en un tour superbe, tandis qu'une ombre bleue tombe sur le Béarn. De place en place sont d'immenses cheminées qui flambent, et entre les cheminées, le mur est peint à fresques de scènes de chasse qui sont travail d'artiste venu d'Italie. L'invité qui n'a pas apporté tous ses joyaux et ses meilleures robes, croyant à un séjour dans un petit château de montagne, fait fort mauvaise figure. Je vous en avertis, s'il vous advient un jour d'y aller. Madame Agnès de Foix, qui est navarre, la sœur de la Reine Blanche et presque aussi belle qu'elle, est toute cousue d'or et de perles. Elle parle peu, ou plutôt, on le devine, elle craint de parler. Elle écoute les ménestrels qui chantent « Aquereus Montagneus » que son époux a composé et que les Béarnais aiment à reprendre en chœur. Phébus, lui, va de groupe en groupe, salue l'un, salue l'autre, accueille un seigneur, complimente un poète, s'entretient avec un ambassadeur, s'informe en marchant des affaires du monde, laisse tomber un avis, donne un ordre à mi-voix et gouverne en causant. Jusqu'à ce que 12 grands flambeaux portés par des valets à sa livrée le viennent quérir pour passer à souper avec tous ses hôtes. Parfois, il ne se met à table qu'à la minuit. Un soir, je l'ai surpris, appuyé contre une arche de la galerie ouverte, à soupirer devant son gave argenté et son horizon de montagne bleue. Trop petit, trop petit. On dirait, monseigneur, que la Providence prend un plaisir malin en faisant rouler les dés, à les apparier à l'envers. Nous venions de parler de la France, du roi de France, et je compris ce qu'il voulait me donner à entendre. Grand homme, souvent, ne reçoit à gouverner que petite terre, alors qu'à l'homme faible échoit le grand royaume. Et il ajouta, « Mais si petit que soit mon Béarn, j'entends qu'il n'appartienne à personne qu'à lui-même. » Ses lettres sont merveilles. Il ne manque à y inscrire aucun de ses titres. Nous, Gaston III, comte de Foix, vicomte de Béarn, vicomte de Lautrec, de Marsan et de Castillon, et quoi donc encore? Ah oui, seigneur de Montesquieu et de Montpezat, et puis, entendez comme cela sonne, viguier d'Andorre et de Capire, et il signe seulement Phébus, avec son F et son E, bien sûr, peut-être pour se distinguer même d'Apollon. Tout comme sur les châteaux et monuments qu'il construit ou embellit, on voit gravé en hautes lettres « Phébus l'a fait ». Il y a de l'outrance, certes, en son personnage, mais il faut se rappeler qu'il n'a que 25 ans. Pour son âge, il a déjà montré beaucoup d'habileté, de même qu'il a montré son courage. Il fut des plus vaillants à Crécy. Il avait 15 ans. Ah, j'omets de vous dire, si vous ne le savez, il est petit-neveu de Robert d'Artois. Son grand-père épousa Jeanne d'Artois, la propre sœur de Robert, laquelle, aussitôt après son veuvage, a marqué tant d'appétit pour les hommes, mené vie si scandaleuse, causé tant d'embrouilles et pourrait tant en causer encore. Mais si, elle vit toujours, un peu plus de 60 ans et une belle santé, que son petit-fils, notre Phébus, a dû la cloîtrer dans une tour du château de Foix où il l'a fait garder bien étroitement. Ah, c'est un sang lourd que celui des d'Artois. Et voilà l'homme dont la forêt, l'archevêque chancelier, alors que tout devient contraire au roi Jean, obtient qu'il vienne rendre l'hommage. Oh, ne vous méprenez point. Phébus a bien réfléchi sa décision et il n'agit précisément que pour protéger l'indépendance de son petit Béarn. L'Aquitaine touchant à la Navarre et lui-même touchant aux deux, leur alliance à présent patente ne lui sourit guère. Cela menace d'une grosse pesée ses courtes frontières. Il aimerait bien se garantir du côté du Languedoc où il a eu maille à partir avec le comte d'Armagnac, gouverneur du roi. Alors, rapprochons-nous de la France, finissons-en de cette mésentente et dans ce dessein, rendons l'hommage dû pour notre comté de Foix. Bien sûr, Phébus plaidera la libération de son beau-frère Navarre, on en est convenu, mais pour la forme seulement, comme si c'était le prétexte au rapprochement. Le jeu est fin. Phébus pourra toujours dire aux Navarres « Je n'ai rendu l'hommage que dans l'intention de vous servir. » En une semaine, Gaston Phébus séduisit Paris. Il était arrivé avec une nombreuse escorte de gentilshommes, des serviteurs à foison, 20 chars pour transporter sa garde-robe et son mobilier, une meute splendide et une partie de sa ménagerie de bêtes fauves. Tout ce cortège s'étirait sur un quart de lieue. Le moindre varlet était splendidement vêtu, arborant la livrée de Béarn. Les chevaux étaient caparaçonnés de velours de soie, comme les miens. Lourde dépense à coup sûr, mais faite pour frapper les foules. Phébus y avait réussi. Les grands seigneurs se disputaient l'honneur de le recevoir. Tout ce qui était notoire dans la ville, gens de parlement, d'université, de finances et même gens d'église, prenaient quelque raison de le venir saluer dans l'hôtel que sa sœur Blanche, la reine veuve, lui avait ouvert pour le temps de son séjour. Les femmes voulaient le contempler, entendre sa voix, lui toucher la main. Lorsqu'il se déplaçait dans la ville, les badauds le reconnaissaient à sa chevelure d'or et s'agglutinaient aux portes des boutiques d'argentiers ou de drapiers dans lesquelles il entrait. On reconnaissait aussi l'écuyer qui l'accompagnait toujours, un géant du nom d'Ernoton d'Espagne, peut-être son demi-frère adultérin. De même qu'on reconnaissait les deux énormes chiens pyrénéens dont il se faisait suivre, tenus en laisse par un varlet. Sur le dos d'un des chiens, un petit singe se tenait assis. Un grand seigneur inhabituel, plus fastueux que les plus fastueux, était dans la capitale, et chacun en parlait. Je vous compte cela par le menu, mais en ce mauvais juillet, nous étions sur l'escalier des drames, et chaque marche importe. Vous aurez à gouverner un gros comté, Archambault, et dans des temps, je gage bien, qui ne seront pas plus aisés que celui-ci. On ne se relève point en quelques années de la chute où nous voilà. Gardez bien ceci en mémoire. Dès lors qu'un prince est médiocre de nature, ou bien affaibli par l'âge ou par la maladie, il ne peut plus maintenir l'unité de ses conseillers. Son entourage se partage, se divise, car chacun en vient à s'approprier les morceaux d'une autorité qui ne s'exerce plus ou s'exerce mal. Chacun parle au nom d'un maître qui ne commande plus. Chacun échafaude pour soi, l'œil sur l'avenir. Alors les coteries se forment selon les affinités d'ambition ou de tempérament. Les rivalités s'exaspèrent. Les loyaux se groupent d'un côté et de l'autre les traîtres, qui se croient loyaux à leur manière. Moi, j'appelle traîtres ceux qui trahissent l'intérêt supérieur du royaume. Souvent, c'est qu'ils sont incapables de l'apercevoir. Ils ne voient que l'intérêt des personnes. Or, ce sont eux, hélas, qui généralement l'emportent. Autour du roi Jean, deux partis existaient comme ils existent aujourd'hui autour du dauphin, puisque les mêmes hommes sont en place. D'un côté, le parti du chancelier Pierre de la Forêt, l'archevêque de Rouen, que seconde Enguerrand du Petit Cellier. Ce sont hommes que je tiens pour les plus avertis et les plus soucieux du bien du royaume. Et puis de l'autre, Nicolas Braque, Loris et surtout, Simon de Bussy. Peut-être l'allez-vous voir à Metz. Ah, défiez-vous toujours de lui et des gens qui lui ressemblent. Un homme à tête trop grande, sur un corps trop court, déjà c'est mauvais signe, redressé comme un coq, assez mal appris et violent dès qu'il cesse d'être taciturne, et plein d'un immense orgueil, mais dissimulé. Il savoure le pouvoir exercé dans l'ombre et n'aime rien tant qu'humilier, sinon perdre, tous ceux qu'il voit prendre trop d'importance à la cour ou trop d'influence sur le prince. Il imagine que gouverner, c'est seulement ruser, mentir, échafauder des machines. Il n'a point de grande idée, seulement de médiocres desseins, toujours noirs, et qu'il poursuit avec beaucoup d'obstination. Petit clerc du roi Philippe, il a grimpé jusqu'où il est, premier président au Parlement et membre du Grand Conseil, en s'acquérant réputation de fidélité parce qu'il est autoritaire et brutal. On a vu cet homme, rendant la justice, obliger des plaideurs mécontents à s'agenouiller en plein prétoire pour lui demander pardon, ou bien faire exécuter d'un coup 23 bourgeois de Rouen. Mais il prononce aussi bien des acquittements arbitraires ou renvoie indéfiniment de graves affaires pour pouvoir tenir les gens à sa discrétion. Il sait ne pas négliger sa fortune. Il a obtenu de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés l'octroi de la Porte Saint-Germain, aussitôt nommée Porte de Bussy. Et par là, il touche péage sur une bonne part de tout ce qui roule dans Paris. Dès lors que La Forêt avait négocié l'hommage de Phébus, Bussy y était opposé et bien résolu à faire échouer l'accord. C'est lui qui alla au-devant du roi, venant de Breteuil, et lui glissa. Phébus vous nargue dans Paris par un grand étalage de richesses. Phébus a reçu à deux reprises le prévôt Marcel. J'ai soupçon que Phébus complote avec sa femme et la reine blanche l'évasion de Charles le Mauvais. Il faut exiger de Phébus l'hommage pour le Béarn. Phébus ne tient pas de bons propos sur vous. Prenez garde, en accueillant trop gracieusement Phébus, de blesser le comte d'Armagnac, dont vous avez grand besoin en Languedoc. Certes, le chancelier La Forêt est trop coulant avec les amis de vos ennemis. Et puis, a-t-on idée de s'appeler Phébus ? Et afin de mettre le roi vraiment en méchante humeur, il lui bailla une mauvaise nouvelle. Friquet de Fricamp s'était évadé du Châtelet grâce à l'ingéniosité de deux de ses domestiques. Les Navarrais narguaient le pouvoir royal et retrouvaient un homme bien habile et bien dangereux. Cela fit qu'au souper qu'il offrit la veille de l'hommage, le roi Jean se montra rogue et agressif, appelant Phébus « Messire mon vassal » et lui demandant « Reste-t-il quelques hommes dans vos fiefs après tous ceux qui vous escortent dans ma ville ?» Et encore il lui dit « J'aimerais que vos troupes n'entrassent plus dans les terres où commande mon seigneur d'Armagnac. » Fort surpris, car il était convenu avec Pierre de la Forêt qu'on regarderait ces incidents comme effacés, Phébus répliqua. « Mes bannières, sire mon cousin, n'auraient pas eu à pénétrer en Armagnac si ce n'avait été pour y repousser celles qui venaient attaquer chez moi. Mais dès lors que vous avez donné ordre que cessent les incursions des hommes qui sont à monseigneur d'Armagnac, mes chevaliers se tiendront heureux sur leurs frontières. » Sur quoi le roi enchaîna. « Je souhaiterais qu'ils se tinssent un peu plus près de moi. J'ai convoqué l'host à Chartres pour marcher à l'anglais. Je compte que vous serez bien exact à le rejoindre avec les bannières de Foix et de Béarn. » « Les bannières de foi, répondit Phébus, seront levées ainsi que Vassal le doit, aussitôt que je vous aurai rendu l'hommage, sire mon cousin, et celles de Béarn suivront, s'il me plaît. » Pour un souper d'accordement, c'était réussi. L'archevêque chancelier, surpris et mécontent, s'employait vainement à mettre un peu de baume. Bussy montrait visage de bois, mais dans le fond de soi, il triomphait. Il se sentait le vrai maître. Du roi de Navarre, le nom ne fut même pas prononcé, bien que la reine Jeanne et la reine Blanche fussent présentes. En sortant du palais, Ernoton d'Espagne, l'écuyer géant, dit au comte de Foix, je n'étais pas dans leurs bottes, mais c'est le sens de ce qui me fut rapporté, « J'ai bien admiré votre patience. Si j'étais Phébus, je n'attendrais point un nouvel outrage, et je m'en repartirais sur le champ pour mon Béarn. » À cela, Phébus répondit, et si j'étais Ernoton, c'est tout exactement le conseil que je donnerais à Phébus. Mais je suis Phébus, et dois regarder avant tout l'avenir de mes sujets. Je ne veux pas être celui qui rompt et paraître en mon tort. J'épuiserai toute chance d'accord jusqu'aux limites de l'honneur. Mais la forêt, je le crains bien, m'a mené dans une embûche. À moins qu'un fait que j'ignore et qu'il ignore ait retourné le roi. Nous verrons demain. Et le lendemain, après messe, Phébus pénétra dans la grande salle du palais. Six écuyers soutenaient la traîne de son manteau, et pour une rare fois, il n'allait pas tête nue. C'est qu'il portait couronne, or sur or. La chambre était tout emplie de chambellans, conseillers, prélats, chapelains, maîtres du parlement et grands officiers. Mais le premier que remarqua Phébus, ce fut le comte d'Armagnac, Jean de Forez, debout au plus près du roi et comme appuyé au trône, faisant figure bien arrogante. De l'autre côté, Bussy feignait de mettre ordre dans ses rôles de parchemin. Il en prit un et lut, comme si c'eût été un tout ordinaire arrêt, « Messire, le roi de France, monseigneur, vous reçoit pour la comté de Foix et la vicomté de Béarn que vous tenez de lui. » Et vous devenez son homme comme comte de Foix et vicomte de Béarn, selon les formes faites entre ses devanciers, roi de France et les vôtres. Agenouillez-vous. » Il y eut un temps de silence. Puis Phébus répondit d'une voix fort nette, « Je ne puis !» L'assistance marqua de la surprise, sincère chez la plupart, feinte chez d'autres, avec un rien de plaisir. Ce n'est pas si souvent qu'un incident survient dans une cérémonie d'hommage. Phébus répéta « Je ne puis !» et il ajouta bien clairement « J'ai un genou qui ploie, celui de Foix, mais celui de Béarn ne peut ployer. » Alors le roi Jean parla, et sa voix avait un ton de colère. « Je vous reçois et pour Foix et pour Béarn !» L'audience frémit de curiosité, et le débat donna ceci pour le plus gros. Phébus. « Sire, Béarn est terre de Francs-Alleux, et vous ne pouvez point me recevoir pour ce qui n'est pas de votre suzeraineté. » Le roi. « C'est fausseté que vous alléguez là, et qui a été pour trop d'années sujet de dispute entre vos parents et les miens. » Phébus. « C'est vérité, sire, et qui ne restera sujet à discorde que si vous le voulez. Je suis votre sujet fidèle et loyal pour foi, selon ce que mes pères ont toujours protesté, mais je ne puis me déclarer votre homme pour ce que je ne tiens que de Dieu. » Le roi. Mauvais vassal, vous vous ménagez de fourbes chemins pour vous soustraire au service que vous me devez. L'an dernier, vous n'avez point amené vos bannières au comte d'Armagnac, mon lieutenant en Languedoc, que voici, et qui, à cause de votre défection, n'a pu repousser la chevauchée anglaise. Phébus dit alors superbement. Si de mon seul concours dépend le sort du Languedoc et que messire d'Armagnac est impuissant à vous garder cette province, alors ce n'est pas à lui qu'il faut en remettre la lieutenance, sire, mais à moi. » Le roi était monté en fureur et son menton tremblait. « Vous me narguez, beau sire, mais ne le ferez pas longtemps. Agenouillez-vous !» Ôtez Béarn de l'hommage et je ploie le genou aussitôt. Vous le ploierez en prison, mauvais traître !» cria le roi. « Qu'on s'en saisisse !» La pièce était montée, prévue, organisée, au moins par Bussy, qui n'eut qu'un geste à faire pour que Périnet le Buffle et 6 autres sergents de la garde surgissent autour de Phébus. Il savait déjà qu'il devait le conduire au Louvre. Le même jour, le prévôt Marcel s'en allait 10 ans dans la ville. Il ne restait plus au roi Jean qu'un seul ennemi à se faire. C'est chose accomplie. Si tous les larrons qui entourent le roi demeurent en place, il n'y aura bientôt plus un seul honnête qui pourra respirer hors de geôle.